Il est 5h sur Europe 1. Très bon réveil à tous. À la une de ce mardi 5 juillet, les suites du remaniement, à peine nommé, déjà critiqué, le choix de Christophe Béchu à la transition écologique est loin de faire l'unanimité, même à Angers, la ville dont il est le maire depuis 2014. Nouvelle fusillade hier soir aux États-Unis, au moins 6 morts et 26 blessés à Chicago, le tueur présumé arrêté. Près d'un jeune sur deux a déjà conduit drogué ou alcoolisé selon une enquête de la MAF, et parfois sans le savoir. Attention à l'effet aquarium, une consommation passive de cannabis peut engendrer un dépistage positif. Et puis, quatrième étape dans les corons aujourd'hui pour les cyclistes du Tour de France. Dunkerque-Calais, 171 km pensés pour les punchers.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h, le journal, c'est avec Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. 19 entrants, 5 partants, début de l'ère Borne 2 au gouvernement. Promotion pour Christophe Béchu, qui succède à Amélie de Montchalin au ministère de la Transition écologique. Il travaillait déjà sous sa tutelle et celle de Gérald Darmanin, maire d'Angers depuis 8 ans. Dans sa ville, on est partagé sur son action. Le reportage de Charles Guyard.
Dans la perspective éventuelle que cette majorité se succède à elle-même, il y a clairement des trous dans la raquette qui conviendrait de pouvoir compléter.
C'était le 7 septembre dernier, aux journées parlementaires LREM organisées dans sa ville. Le maire d'Angers, Christophe Béchu, adressait alors un appel du pied assez net au président Macron.
Tout le monde connaissant ma proximité avec le président de la République.
Une proximité qui s'est traduite hier par une nomination de ministre de la Transition écologique à la mairie d'Angers. Forcément, on s'en félicite, notamment Hélène Krupeninck, l'adjointe à l'environnement.
Pour moi, ça a tout à fait du sens. Quand on voit la manière dont les choses se développent à Angers. La transition écologique, c'est l'une des trois priorités du mandat 2020-2026.
Un enthousiasme loin de faire l'unanimité à Angers, pourtant désignée ville la plus verte de l'Hexagone. Et justement, pour l'opposante municipale socialiste Sylvia Camara-Tombini, Christophe Béchu n'a fait qu'hériter de cette situation.
En termes d'écologie, il y a eu une prise de conscience qui est quand même très récente. Il me semble quand même important qu'on puisse nommer au ministère des personnes qui ont un minimum d'expérience dans ce domaine-là. C'est un très mauvais signal envoyé à l'écologie.
Et Christophe Béchu pourrait effectuer son retour à Angers dès vendredi. Il y est attendu de longue date au parc floral Terra Botanica dont il avait initié la construction il y a 12 ans lorsqu'il présidait le département. Angers, Charles Guyard, Europe 1.
Et Olivier Véran, ancien ministre de la Santé, devient porte-parole du gouvernement. C'est donc à lui qu'est revenue la responsabilité d'annoncer les raisons de l'éviction de Damien Abad, visé par une enquête pour tentative de viol.
Dans le cas de Damien Abad, les conditions de sérénité n'était plus présente, qui permettait à un ministre qui porte dans son portefeuille toutes les politiques de solidarité d'exercer pleinement ses fonctions. Ça aurait été l'exposition aux foudres du Parlement à chaque entrée au Parlement et beaucoup d'investissements en temps pour qu'il puisse aussi assurer sa défense. Et beaucoup a été écrit et tout a été dit sur le sujet.
La déclaration d'Olivier Véran à l'issue du premier conseil des ministres de ce nouveau gouvernement. Elisabeth Borne annonce de son côté qu'elle ne se soumettra pas au vote de confiance à l'Assemblée. Demain, riposte immédiate de la France insoumise. Une motion de censure sera déposée ce mercredi contre le gouvernement.
Motion de censure qui a très peu de chances d'aboutir vu que les LR et le RN ne comptent pas la voter. 5 heures passées de bientôt 4 minutes sur Europe 1. Nouvelle fusillade hier soir à Chicago dans l'Illinois.
On entend cette rafale de coups de feu tirée en plein défilé du 4 juillet, fête de l'indépendance. Le bilan fait état d'au moins 6 morts et 26 blessés. Le tireur, présumé un jeune homme de 22 ans, a été interpellé cette nuit. Joe Biden se dit choqué et promet de ne pas abandonner la lutte contre l'épidémie de violence par arme à feu.
Retour en France ou prendre le volant en ayant fumé un joint ou bu quelques verres de trop, des comportements à risque banalisés visiblement chez les 18-24 ans.
4 jeunes sur 10 admettent avoir déjà conduit après avoir bu ou s'être drogué. Résultat hallucinant d'une enquête MAF Prévention. Et même si le conducteur ne fume pas, le fait de respirer la fumée d'un passager peut le rendre positif au dépistage. Explication Yasmina Katou.
Oui, c'est ce que l'on appelle l'effet aquarium, une sorte de tabagisme passif. Imaginez une voiture, vitre fermée, où 2 passagers sur 3 fument des joints. L'habitacle se transforme alors en fumoir. Celui qui ne consomme pas de cannabis inhale la fumée malgré lui. Selon l'enquête de MAF Prévention, parmi les 18-24 ans, un jeune sur cinq dit avoir déjà laissé des amis fumer de l'herbe dans sa voiture. Et les conséquences peuvent être lourdes, prévient Pierre Nègre, responsable prévention chez MAF.
Ça va très vite, c'est simple fait d'inhaler à l'intérieur. En cas de contrôle, le test réagira de manière positive. Et pas nécessairement faire des milliers de kilomètres. Hein. Si vous avez un accident, vous n'aurez absolument pas de prise en charge puisque vous ne serez pas assuré, au vu de la loi et de l'assurance.
La consommation de cannabis multiplie par deux le risque d'avoir un accident mortel. Selon la sécurité routière, chaque année, 700 personnes meurent dans une collision impliquant un chauffeur qui a consommé de la drogue.
Et cela représente 21% de la mortalité routière.
On prend maintenant la direction de Strasbourg. Jour de verdict pour Jean-Marc Reiser.
Jugé pour avoir tué Sophie Le Tan en 2018, la perpétuité assortie de 22 ans de période de sûreté a été requise hier à son encontre. L'enjeu est de savoir s'il avait prémédité son geste. Jean-Marc Reiser assure que non, une version qui ne convainc pas maître Gérard Welzer, l'avocat de la famille de Sophie Le Tan.
Au cours de ce procès, M. Reiser a continué à mentir et a continué dans sa stratégie criminelle gravissime avec un profond mépris pour les victimes puisque à plusieurs reprises, il a parlé d'incident quand on a parlé de l'assassinat. Monsieur l'avocat général a fait une démonstration précise et méticuleuse sur les éléments constitutifs de l'assassinat. Monsieur Reiser, selon monsieur l'avocat général et selon la famille de Sophie, est un assassin.
Maître Gérard Welzer, avocat de la famille de Sophie Le Tan, au micro Europe 1 de Gladys Laffitte.
Les vacances débutent officiellement vendredi soir, les grandes vacances, mais avant c'est la grève à la SNCF demain.
Les syndicats réclament une augmentation générale des salaires. Pour se faire entendre, ils vont massivement débrayer, prévoyant en moyenne 2 TER sur 5, un intercité sur 3 ou encore 2 Ouigo sur 3. Le trafic sera également perturbé sur les TGV.
Sur la route du Tour de France, pas de perturbation en revanche, après 3 étapes au Danemark, retour au bercail pour les coureurs. Première étape en France métropolitaine aujourd'hui.
Dunkerque, Calais, 171 km de route accidentée. Axel Metz qui pourrait profiter à ceux qu'on appelle les punchers.
Oui, après un contre-la-montre et deux étapes arrivées au sprint, les organisateurs de la Grande Boucle ont voulu, pour le retour en France, mettre les punchers à l'honneur, c'est-à-dire ces coureurs explosifs, capables de distancer dans une côte proche de l'arrivée le reste du peloton. Thierry Gouvenou est le responsable du tracé.
Oui, ces coureurs punchers, voilà, il y a une dernière côte à 10 km, le cap Blanc-Nez, qui est quand même assez difficile. Et ça peut permettre d'attaquer, de se servir de tremplin. Et pourquoi pas espérer résister jusqu'à l'arrivée.
Sur le papier, cette étape Dunkerque-Calais convenait aux qualités de puncheur de Julien Alaphilippe. Mais voilà, le double champion du monde, jugé par son équipe insuffisamment remis de sa grosse chute du printemps, est resté à la maison. Le final de l'étape pourrait aussi être rendu compliqué par le vent, prévient le jeune Mathis Nouvel.
J'ai déjà roulé dans ce coin-là. Le vent peut être important aussi. Sur la fin d'étape, si on prend vraiment le bord de mer, ça peut vraiment être dangereux pour les bordures et tout, donc il peut y avoir des surprises. Ouais.
Ces fameuses bordures, ces cassures faisant exploser le peloton, les organisateurs du Tour espéraient pour le spectacle en avoir au Danemark, mais elles n'ont pas eu lieu, faute de vent favorable.
Axel May, tout à l'heure à 7h20 et 8h30, ne manquez pas le journal du Tour avec Martin Lange.
C'est noté, merci beaucoup Alban Le Prince et à tout à l'heure pour le journal permanent.
Il est 5h08, c'est l'heure des courses avec le pari gagnant de Thierry Léger.
Bonjour Ombline, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vichy et mon pari gagnant sera le 506 Happy Job. Dans cette course où le départ sera donné à l'aide de l'autostart, il se retrouve idéalement placé en première ligne et jugé sur ce qu'il vient de réaliser lors de ses 5 dernières sorties où il n'a jamais terminé plus loin que 5e, il serait vraiment surprenant que ce trotteur fiable sur lequel on peut souvent compter ne puisse pas une nouvelle fois lutter pour la victoire. Alors notez bien, pour cet après-midi à Vichy, réunion 1 dans la 5e course, le numéro 6, Happy Job.
Le numéro 6, merci beaucoup Thierry Léger et à tout à l'heure pour vos pronostics du Quintet. À tout de suite.
Ombline Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Et pour le pressing, nous sommes rejoints par Dimitri Vernet. Bonjour.
Bonjour Ombline, bonjour Julien, bonjour à tous.
Bonjour Dimitri, on jette un œil sur les unes de vos journaux qui reviennent pour la plupart sur le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne. Macron contrat en remaniement minimum, titre Le Figaro. Macron remanie sans élargir sa majorité, précise Les Échos. L'équipe B raille pour sa part Libération, avec pour illustration les membres du nouvel exécutif posant hier dans les jardins de l'Élysée. Un gouvernement moins écolo et moins paritaire pour les grands postes, note Libé. Et c'est vrai, 5 femmes seulement occupent un ministère de plein exercice contre 11 hommes. Le Parisien aujourd'hui en France revient de son côté sur l'effondrement dimanche d'une partie d'un glacier dans les Alpes italiennes. Fonte des glaciers, nouvelle alerte, titre le quotidien pour qui cette catastrophe est appelée malheureusement à se reproduire avec le dérèglement climatique. Omblin, on commence avec vous.
Et on parle justement environnement, c'est l'été de tous les festivals, c'est une joie immense aux quatre coins de la France pour les organisateurs, les artistes et les festivaliers de se retrouver sous le soleil ou les étoiles afin de fêter la musique en plein air après 2 ans d'empêchement s'éclater, mais sans tuer la planète à Marmande dans le sud-ouest pendant le festival Garo Rock aux Nuits de Fourvière à Lyon ou Main Square Festival à Arras entre le transport, le grignotage sous emballage, les mégots de cigarettes, quel bon réflexe adopter, c'est-à-dire sur le site du Huffington Post. On était hier au téléphone avec le directeur du festival Les Vieilles Charrues qui nous disait que 70 000 personnes étaient attendues à Carré dans le Finistère à partir du 14 juillet. C'est un chiffre qui interpelle et qui interroge sur l'impact que cette affluence soudaine peut avoir sur l'environnement. Avant la pandémie, en 2019, donc, une étude avait estimé le bilan carbone d'un festival regroupant 50 000 personnes à environ 1 000 tonnes équivalent CO2, ça correspond à 400 allers-retours Paris-New York en avion ou l'émission de gaz à effet de serre de 100 Français pendant un an, donc sur une journée uniquement. Alors pour réduire son empreinte carbone, parfois c'est assez simple, hein, le festivalier doit éviter de venir en voiture, enfin c'est simple, facile à dire, privilégier le vélo, alors pour aller à Carré, c'est pas forcément évident, c'est en pleine campagne, les transports en commun, le covoiturage, ça c'est possible. Pendant un festival de musique, on fait la fête et on oublie parfois ses bonnes habitudes. Toute l'année, on achète en vrac. Là, on accumule les emballages plastiques. Vous emportez simplement votre gourde avec vous. Ça, c'est pas compliqué pour mettre de l'eau dedans ou de la bière chaude.
Encore faut-il qu'on vous laisse rentrer avec la gourde dans le festival, ce qui n'est pas assuré.
Exactement. Alors, parfois, ils vendent des gourdes sur place que vous pouvez réutiliser, que vous ramenez à la maison. Voilà, avec votre bière dedans. Avec modération. En vient ensuite le fléau des mégots de cigarettes. C'est comme à la plage, pas de mégots dans le sable, donc pas de mégots non plus sur la pelouse, mais dans un cendrier de poche comme on en donne souvent à l'entrée. Enfin, c'est bien pour vos tympans, mais c'est très moyen pour la planète. Les bouchons d'oreilles jetables censés finir à la poubelle, le mieux reste les réutilisables. Là aussi, on vous en donne pas mal dans les festivals, bien sûr. Tout ne repose pas sur les festivaliers. Les organisateurs cherchent de plus en plus de solutions pour réduire l'impact de leurs événements sur l'environnement, tout en profitant du moment. Tout en profitant de Kiss, qui sera ce soir dans les arènes du festival de Nîmes. Festival et environnement, c'est sur le site du Huffington Post.
Merci Omblin. Dimitri, on vous écoute.
Et on reste sur la thématique environnement, puisque j'ai décidé de vous parler d'un article des Échos qui est assez alarmant, qui a pour titre, je vous le dis, « L'air pollué des villes n'épargne plus les campagnes ». Et le premier exemple qui est cité dans cet article, eh bien, il est assez sidérant. Le 16 juin dernier, à Barbantane, un petit village provençal d'à peine 4000 habitants, la préfecture de la zone a déclenché une alerte pollution de niveau 2, ce qui a eu pour conséquence de déclencher des restrictions de circulation, comme on les connaît dans les grandes villes. Et cette petite ville n'est pas une exception. Aujourd'hui, 99% de la population mondiale, donc presque la totalité, respire désormais une atmosphère qui dépasse les limites sanitaires fixées par l'OMS. Mmh. Un chiffre très inquiétant quand on sait la dangerosité des différents polluants pouvant provoquer des troubles cardio- et cérébrovasculaires ou alors même des cancers. Et toujours selon l'OMS, plus de 7 millions de décès par an seraient liés à ces différents polluants présents dans l'atmosphère. Alors sur le papier, la réponse, elle est assez simple, il faut chasser la voiture de nos villes, on pourrait se dire. Eh bien, c'est ce qui a été en partie fait avec la création des ZFE, les zones à faible émission. On en compte 240 en Europe qui ont pour point commun l'interdiction d'accès à une partie de la ville pour les véhicules. Mais c'est une fausse bonne idée, selon l'Institut Brunois, qui cite l'exemple parisien de notre ville, notre capitale, où la pollution n'a globalement pas baissé. Et pour sortir de cette impasse, il va falloir trouver des solutions, comme en réinventant totalement nos villes ou en optant pour l'urbanisme vert, par exemple, et ces immeubles dépolluants et champs biofiltrants. Mais c'est une méthode qui a du mal à séduire les grandes villes puisque cela n'a pas d'effet immédiat. Cependant, il faut bien trouver une solution quand on sait que 10% des cas de cancer en Europe sont liés à la pollution.
Merci beaucoup Dimitri. Finalement, les ZFE repoussent la pollution vers les campagnes. C'est
exactement
un peu ce qu'on comprend
exactement
à travers cet article.
On repousse le problème, finalement.
Merci à vous. J'ai choisi pour ma part cet article à lire ce matin dans le Figaro, article dont le titre fait sourire, je vous le lis, « La Turquie ne veut plus passer pour une dinde ». C'est très sérieux et c'est même officiel. Recep Tayyip Erdogan, le chef d'État turc, vient de changer le nom de son pays à l'étranger. Exit le trop connoté « Turkey » en anglais, pouvant donc être traduit par « dinde » ou « bonarien ». Désormais, c'est « Turquie » qu'il faut dire et écrire avec un tréma sur le « u ». Car voyez-vous, Erdogan, qui aime à se penser comme un sultan bien viril, ne supporte pas que, passé ses frontières, le nom de son pays puisse être associé à un volatile. Voilà pourquoi le « Reis », comme on le surnomme, a formulé en janvier une demande de changement d'orthographe, demande approuvée par l'ONU le mois dernier. Le nouveau nom apparaît désormais partout, sur tous les sites officiels, et les autorités turques travaillent d'arrache-pied pour convaincre, voire forcer les entreprises à remplacer la mention « Made in Turkey » par « Made in Turquie » sur les produits d'exportation. Quant à Turkish Airlines, la compagnie aérienne nationale, Ankara, vient d'annoncer vouloir la rebaptiser avec son nom turc, Turkiye Hava Yolari. C'est un peu moins vendeur, il faut bien le dire. Quoi qu'il en soit, le calendrier de ce lifting linguistique ne doit rien au hasard, alors qu'Erdogan s'agite sur tous les fronts, médiation dans la guerre en Ukraine, intervention militaire paraît-il imminente en Syrie et regain de tension avec la Grèce. Ce changement coïncide avec les préparatifs du centenaire de la République turque qui sera célébré en juin 2023. C'est aussi l'occasion idéale de booster le sentiment national à un an de l'élection présidentielle qui est loin, très loin d'être gagnée d'avance pour Erdogan, alors que la Turquie traverse une crise économique sans précédent, et ce depuis l'arrivée au pouvoir il y a 20 ans de l'AKP, le parti islamo-conservateur de l'actuel chef d'État. Mais à force de jouer avec les mots, Erdogan risque pourtant d'en perdre son turc, car le paradoxe, c'est que d'un point de vue étymologique, le mot « Turquie » eh bien, n'est pas turc. En effet, le suffixe « ié » vient de l'arabe. Et c'est ce que rappelle dans l'article un linguiste. Or, vous le savez, les Turcs ne sont pas des Arabes. En réalité, c'est à l'issue du démantèlement de l'Empire ottoman en 1923 que le mot « Turquie » est devenu l'appellation officielle du pays. Il servait avant cela à désigner l'aire géographique dans laquelle se trouve la Turquie actuelle, aire géographique qui englobe une partie du monde arabe. Paradoxe encore plus cocasse, le mot anglais « Turkey », pardonnez-moi, c'est difficile de passer de l'anglais au turc, désignant donc le fameux volatile, vient de Turquie, le pays, et non l'inverse. C'est une histoire rocambolesque. En fait, la dinde nous vient à la base d'Amérique latine, mais les conquistadors espagnols ont appelé cette bestiole poule d'Inde, parce qu'ils pensaient découvrir à ce moment-là les Indes. Au passage, poule d'Inde s'est contracté en dinde pour nous autres Français. Cette méprise des conquistadors, nos amis américains et anglais ont voulu la corriger. Poule d'Inde est devenue poule de Turquie, mais là aussi c'est une erreur puisqu'ils ont confondu la dinde avec la pintade qui, elle, nous vient bien de Turquie. Est-ce Kaboulox que vous suivez? Voilà. En tout cas, cela inspire de nombreux internautes qui accusent le président turc de cacophonie inutile. Certains se sont amusés à lancer une pétition réclamant que la volaille à crête protubérante appelée Hindi en turc se fasse, elle aussi, rebaptiser Turquie. La Turquie ne veut plus passer pour une dinde, c'est-à-dire dans le Figaro. C'était très drôle.
Pour les Américains, la dinde est donc une pintade.
Voilà.
Et inversé. Bon.
On s'en sort plus.
C'est ça. Merci beaucoup, Julien. Merci, Dimitri. On se retrouve dans 40 minutes pour les sports.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
5h19 sur Europe 1, les principaux titres de ce mardi avec Alban Le Prince.
Motion de censure contre le gouvernement déposée demain. Annonce de la France insoumise hier, immédiatement après avoir appris qu'Elisabeth Borne ne se soumettrait pas au vote de confiance de l'Assemblée. La première ministre prononcera tout de même son discours de politique générale. Le nouveau gouvernement s'est par ailleurs réuni hier pour son premier conseil des ministres. Le prochain est prévu jeudi. Le projet de loi sur le pouvoir d'achat sera présenté à ce moment-là. En attendant, une dizaine de ministres se réunissent ce matin pour plancher sur des outils de lutte contre l'inflation. Nouvelle fusillade hier soir aux États-Unis. Au moins 6 morts et 26 blessés à Chicago lors du défilé du 4 juillet. Le suspect, un homme de 22 ans, a été interpellé cette nuit. Et puis en Ukraine, après avoir pris Lysychansk, Vladimir Poutine ordonne à ses troupes de poursuivre l'offensive. De son côté, Kiev estime le coût de la reconstruction du pays à 750 milliards de dollars.
Europe 1. Vous ouvrez grand vos oreilles pour les initiatives en France sur Europe 1, c'est la chronique de celles et ceux qui innovent.
Bonjour Sandra Ray.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en ligne avec nous. Vous êtes la fondatrice de Glowy, une start-up de biotechnologie qui veut éclairer nos villes, mais pas avec des ampoules ni de l'électricité, mais en utilisant un phénomène naturel. Expliquez-nous.
Alors effectivement, on existe un phénomène naturel qui s'appelle la bioluminescence, qui est la capacité qu'ont beaucoup d'organismes vivants, comme les lucioles par exemple, ou les vers luisants, à produire de la lumière. Et nous, en l'occurrence, on utilise des bactéries marines qui vivent normalement chez des poissons ou chez des calamars. Et notre métier, c'est donc de cultiver des bactéries bioluminescentes, de les rendre les plus performantes possibles et d'en faire ensuite du mobilier urbain pour changer la philosophie d'éclairage de nos villes, rendre un éclairage qui est à la fois plus durable, mais aussi plus respectueux pour la biodiversité et pour les citoyens.
Cette bioluminescence, ça donne cette lumière bleutée ou verdâtre ?
Tout à fait, c'est une sorte de bleu lagon, un peu un bleu vert.
Il y a plein d'organismes marins, je l'ai appris en préparant cette interview, qui produisent de la bioluminescence, certaines méduses notamment.
Tout à fait, en fait il y a plus de 80% des organismes marins qui sont connus, donc il y en a encore beaucoup qu'on ne connaît pas, hein, notamment dans les abysses où la bioluminescence est la plus présente. Et donc ça va vraiment de la méduse au requin en passant par l'anémone, le plancton, le calamar, les poissons. Il y a vraiment quasiment tous les organismes sont capables de produire de la bioluminescence.
Et comment intégrer ces bactéries marines dans le mobilier urbain que vous développez? Parce que c'est bien ça l'objectif, hein, c'est de se passer peut-être à terme d'éclairage public.
Alors oui, l'idée c'est vraiment de petit à petit, en tout cas faire changer l'approche de l'éclairage, donc changer cette approche très traditionnelle qui est le lampadaire en fait, en basculant vers du mobilier urbain lumineux qui va permettre de guider, de signaler, de mettre en valeur en fait beaucoup de fonctions qu'a la lumière dans la ville. Et donc nous ce qu'on fait c'est que d'une part on crée des sortes de mini aquariums puisque c'est une matière première qui est vivante, hein, c'est une lumière qui est liquide, qui est constituée de ces bactéries-là et d'un milieu nutritif. Et donc on crée en fait des sortes de petits aquariums qu'on intègre du coup dans du mobilier. Donc là le premier mobilier qu'on a créé c'est un mobilier urbain de signalétique. Ensuite on a un deuxième produit qu'on est en train de développer qui est plus un sorte d'îlot de fraîcheur où on peut venir se poser, passer du temps, se donner rendez-vous. Et en fait l'idée c'est de réfléchir en même temps que d'imposer la bioluminescence aux usages de la ville de demain. Et donc de s'intéresser à comment est-ce qu'on dessine un éco-quartier, comment est-ce qu'on dessine un quartier résidentiel, comment est-ce qu'on dessine un quartier commerçant avec une nouvelle approche de la lumière par la bioluminescence.
Ouais, et il faut les nourrir ces bactéries de temps à autre?
Tout à fait. Donc le principe c'est vraiment de faire en sorte qu'elles aient tout le temps du milieu nutritif pour pouvoir continuer à se reproduire en fait. Et donc qu'il y ait tout le temps des nouvelles bactéries qui fassent de la lumière. Et donc les opérateurs, au même titre qu'aujourd'hui ils vont changer des ampoules, bah, demain ils ne changeront pas une ampoule mais vont simplement nourrir le système.
Et est-ce que la lumière produite par votre solution est aujourd'hui suffisante pour qu'elle puisse d'une certaine manière se substituer à l'éclairage public?
Alors elle ne pourra pas se substituer dans tous les usages, par exemple quand on parle d'un usage extrêmement sécuritaire au bord d'une grande route ou qu'on doit éclairer un terrain de foot pour jouer au foot par exemple, ce n'est pas forcément la bioluminescence qui est la plus pertinente. En revanche, pour tous les usages qui servent à mettre en valeur, à guider, à signaler, l'intensité aujourd'hui est complètement suffisante. On peut voir la bioluminescence à plusieurs centaines de mètres dans un environnement qui est éclairé de lampadaires. Donc aujourd'hui, on a vraiment atteint des performances qui permettent de s'intégrer dans ce paysage sans pour autant avoir une vision radicale. Et ça, je pense que c'est important quand on fait du développement durable et qu'on change d'approche, de se dire qu'il n'y a pas une solution miracle qui va régler tous les problèmes, mais c'est plutôt une approche contextuelle, comme peut être le panneau solaire, par exemple, qui est très intéressant dans certains endroits, mais beaucoup moins dans d'autres. Et bien, la bioluminescence, ça va être un peu la même chose.
Mais à terme, en fonction de votre développement, on peut imaginer des lampadaires où les LED ou les ampoules seraient remplacées par de l'eau de mer avec
Alors,
ces fameuses bactéries.
L'approche, elle n'est pas de se dire on va remplacer l'ampoule du lampadaire par de la luminescence, c'est plutôt de se dire on va éclairer différemment, ce qui fait qu'on va pouvoir se passer d'éclairage traditionnel parce qu'on aura pensé un espace éclairé par de la luminescence et pas par autre chose.
En tout cas, la lumière produite est beaucoup plus acceptable pour la nature, pour l'environnement, pour les oiseaux, les insectes.
Oui, alors en fait, il y a plein d'indices, notamment le fait que la lumière ne produit pas de chaleur, par exemple, qui nous font dire que cette lumière est plus douce. Alors c'est une lumière aussi avec une intensité plus faible, mais par contre on peut faire de l'éclairage de surface. Donc on va jouer aussi sur des formes différentes qui ne vont pas être un point lumineux très fort, mais qui vont être une surface un peu plus diffuse. On va essayer de remettre aussi au niveau du sol ce type de lumière, en tout cas plus proche de nos hauteurs à nous, ce qui va permettre de jouer. Et on est en train, nous, de faire une étude un peu plus scientifique sur la manière dont la faune et la flore perçoivent la bioluminescence. Parce que dans la nature, en fait, elle est perçue très différemment par différents organismes, puisqu'il y a des animaux qui vont s'en servir pour attirer leur proie et d'autres qui vont s'en servir pour éloigner des prédateurs, par exemple. Donc, c'est un phénomène assez intéressant qui n'a aujourd'hui jamais été quantifié de manière scientifique sur cette approche-là. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire, nous, aujourd'hui.
J'imagine que vos clients et futurs clients sont principalement des collectivités territoriales?
Oui, alors en tout cas, les acheteurs finaux, c'est souvent le cas, effectivement. On s'intéresse beaucoup à l'aménagement urbain au sens large, et donc on travaille soit en direct avec les collectivités, soit on travaille avec des aménageurs, des constructeurs ou des opérateurs de réseaux de lumière qui, en fait, eux, construisent ces paysages au service des collectivités.
Vous avez d'ailleurs signé, je crois, un contrat avec la ville de Rambouillet?
Tout à fait, oui. On expérimente donc le premier mobilier urbain de luminescence cette année. avec la ville de Rambouillet. Ça fait presque 2 ans qu'on travaille avec eux sur la co-conception de ce premier produit de mobilier. Et on arrive cette année dans la phase d'expérimentation terrain.
Il va ressembler à quoi, ce mobilier urbain? Vous pouvez nous en dire plus ou c'est top secret?
C'est un mobilier urbain de signalétique qui permet de donner de l'information, un panneau qui permet de donner de l'information. C'est vraiment un produit qui permet de créer un premier lien entre la ville de naissance et les citoyens et la ville. Et donc, formellement parlant, on s'est inspiré à la fois d'une sorte de bourgeon qui vient sortir de terre, mais aussi avec tout un imaginaire qui est proche du périscope, par exemple, comme s'il y avait cette lumière qui venait des fonds marins. Et la surface lumineuse ressemble un petit peu à un hublot. On voit en fait le liquide lumineux bouger à l'intérieur. Et donc, c'est un imaginaire assez puissant qu'on essaie de construire autour de la nature, évidemment, et de la mer.
Bon, et est-ce qu'à Glowy, actuellement, vous cherchez des investisseurs, des nouveaux financements pour poursuivre votre développement?
Oui, on vient de clôturer une première partie de nos levées de fonds, notamment avec 800 particuliers qui ont investi. Il y en avait déjà un peu plus de 700 dans le passé, donc on a 1500 citoyens, en fait, qui ont investi dans la technologie. Et donc, effectivement, on est encore en train de chercher des fonds pour cette deuxième phase d'investissement pour pouvoir aller vraiment jusqu'au déploiement.
Merci beaucoup Sandra Ray de nous avoir présenté Glowy, donc l'entreprise qui veut éclairer nos villes avec des bactéries bioluminescentes. On vous souhaite d'atteindre tous vos objectifs et on vous souhaite donc beaucoup de succès. À bientôt sur Europe 1.
Merci beaucoup, à bientôt.
Europe Matin.
Peut-être qu'il nous faut ça pour y voir. C'est le premier titre extrait de son futur 11e album Zazie sur Europe 1 avec Late in Shine. La chanteuse fera son retour sur scène à Antibes dans la salle de l'Antéa les 2 et 3 juin 2023. Vous avez donc encore un peu de temps.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Bon réveil à tous, nous sommes le mardi 5 juillet. Dans un instant, le journal de 5h30 de Christophe Lamarre où il sera question notamment du grand bazar des bagages à l'aéroport de Roissy. Et puis on va se pencher ensuite sur notre pouvoir d'achat. Comment ne pas le faire exploser et ne pas exploser son budget alimentation avec l'inflation?
Eh bien, pour de nombreux Français, les premiers prix et les produits de marque de distributeurs sont la solution pour ne pas trop se priver. Mais quelles sont leurs qualités nutritionnelles et leurs goûts? Quelles sont les bonnes habitudes à prendre avant de faire ses courses? Les conseils de la diététicienne nutritionniste Angélique Coulbert dans un quart d'heure.
On retrouvera ensuite notre monsieur littérature Nicolas Carreau.
Il nous promet une très belle sélection de livres pour les vacances.
Vous rêvez d'une piscine sur mesure? Choisissez le spécialiste près de chez vous. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves. Mondial Piscine vous présente la météo.
C'est surtout Marlène Duret qui nous présente la météo ce matin. Marlène, une belle journée ensoleillée dans l'ensemble, mais avec du vent dans le sud-est.
Oui, Julien, c'est un peu la problématique du jour. Chaleur, plus sécheresse, plus vent, égale risque de feu
trop de
forêt.
S,
oui, feu de forêt. Donc c'est vraiment le bémol de la journée. On a du vent en vallée du Rhône, de la Tramontane autour du golfe du Lion, du vent d'ouest sur la côte varoise et sur les Caps Corses, les vents qui vont rester d'ailleurs marqués ces prochains jours. Sinon, c'est du grand soleil sur une très grande partie du pays. Conditions anticycloniques de retour. On notera un petit peu de grisaille ce matin localement en Auvergne, près de la Manche. Bon, c'est plutôt un ciel variable qui va gagner les frontières du Nord en journée. Un peu de grisaille aussi, des nuages bas qui ont l'air de s'incruster entre le Pays Basque et le Béarn. Ça fait un petit peu comme une mer de nuages et ça ne bouge pas, avec un risque orageux sur l'est de la chaîne pyrénéenne qui pourra déborder sur la plaine du Roussillon en fin d'après-midi. Midi. Quant aux températures, eh bien, elles vont rester raisonnables dans la plupart des régions. 20 degrés au Havre, 22 à Lille, 27 à Nantes, Paris, Tours, 27 degrés également à Metz et Besançon, 29 à Lyon, Cognac, Toulouse. Toujours de fortes chaleurs dans le sud-est avec 34 à Toulon, 35 à Montpellier, jusqu'à 38-39 dans l'intérieur de la Provence.
Donc forte chaleur plus fort vent égale fort risque d'incendie.
Absolument.
Attention, merci beaucoup Marlène Duret. Excellent réveil à tous à l'écoute d'Europe 1, 5h30.
Europe 1.
À la une de ce mardi, un remaniement à minima est réduit aux élus de la Macronie. À peine nommé, le gouvernement d'Elisabeth Borne apparaît fragilisé. La première ministre ne demandera pas la confiance des députés après son discours de politique générale demain, trop risqué. Dans ce journal, la galère des passagers des aéroports parisiens à la recherche de leurs valises. Conséquence de la grève du week-end dernier, 17 000 bagages s'entassent dans les hangars de Roissy. Et puis la réouverture au public du palais de Monaco. Les travaux de restauration ont mis au jour des fresques cachées datant de la Renaissance.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal, c'est avec Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Cette fois, ils sont au complet 41 ministres et secrétaires d'État, 19 entrants et 5 partants, dont Damien Abad, sous le coup d'une enquête pour tentative de viol. Faute d'avoir pu trouver un accord de coalition, Emmanuel Macron se replie sur ses propres troupes. Faut-il y voir une relation de cause à effet? Elisabeth Borne ne demandera pas la confiance du Parlement demain à l'issue de son discours de politique générale. La Macronie marche plus que jamais sur des œufs, Jacques Seret.
Oui, ces derniers jours, les conseillers de l'Élysée et de Matignon ont multiplié les coups de fil, appels aux députés socialistes, tendance gauche modérée, SMS à plusieurs parlementaires des Républicains, pas fermés au dialogue. Beaucoup de députés nous ont dit « on verra », explique un ministre qui a lui-même décroché son téléphone pour prendre le pouls de l'hémicycle. Après un week-end de tractation, le compte n'y était tout simplement pas. Et il y était encore moins une fois la composition du nouveau gouvernement connue. 11 députés de la majorité nommés ministres, autant de voix en moins dans l'hémicycle puisque leurs suppléants n'auront pas encore récupéré leur siège. Conséquence, se soumettre à la confiance des députés relevait de l'aventure hasardeuse. Il y avait un risque, confesse un ministre de poids, c'est que le RN nous piège. Imaginez un seul instant qu'Elisabeth Borne obtienne sur le fil la confiance de la représentation nationale grâce à l'abstention de l'extrême droite, interroge ce même membre du gouvernement. Une situation qui aurait été pour le moins complexe à assumer pour une première ministre issue des rangs de la gauche.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1 et le véritable baptême du feu de ce gouvernement Borne 2 aura lieu le 18 juillet avec l'examen du projet de loi sur le pouvoir d'achat.
Passagers sans bagages, la galère continue pour les voyageurs des aéroports parisiens. Ils n'ont toujours pas récupéré pour certains leurs valises.
Les conséquences de la grève des personnels d'ADP du week-end dernier, des vols annulés ou retardés par dizaines et des bagages qui ne sont jamais arrivés à destination. 17 000 au moins s'entassent dans les hangars de Roissy et cela n'est pas prêt de s'arranger puisqu'un nouveau préavis de grève est déposé pour ce week-end. Reportage Clément Barguin.
Depuis qu'il est rentré des États-Unis vendredi dernier, Christian n'a toujours pas récupéré ses bagages. Bloqué à Paris, ce Vauclusien patiente depuis 4 jours.
Cette grosse valise qui a toutes mes affaires dedans. C'est plutôt emmerdant. Je fais un séjour à Paris forcé. J'ai dû racheter tout. Heureusement que j'avais mon portefeuille sur moi. J'ai racheté des vêtements, j'ai tout racheté. Quoi. Pour pouvoir un billet, pour pouvoir vivre tous les jours. Quoi. À faire de toilette, tout. Quoi. Ouais.
Au guichet Air France, Oumar aimerait bien savoir comment récupérer la valise de sa sœur partie quelques jours en Espagne.
Là, c'est chaud pour elle parce que surtout les affaires qu'ils ont dedans, les clés de sa voiture et les clés de la maison et tout.
Des centaines de bagages sont toujours bloqués, difficile de savoir quand ils pourront être réacheminés. Laurent Daillot est le secrétaire général de la CGT Air France.
Ces bagages, ils sont stockés dans les hangars, dans les sous-sols de Roissy. Certains sont entreposés dans des conteneurs sur le tarmac. Je pense qu'avec l'effectif qu'il y a et le nombre de bagages qu'il y a à réacheminer, ça va être très compliqué. Est-ce qu'ils les retrouveront pendant leurs vacances ou au retour de leurs vacances, c'est une grande question.
Le mouvement de grève des bagagistes, lui, pourrait être reconduit pour les 2 prochains week-ends.
Le réacheminement des bagages prendra plusieurs jours, confirme la direction d'Air France. Les passagers contraints d'acheter des vêtements ou des produits d'hygiène seront remboursés sur demande par la compagnie.
La pagaille dans les aéroports parisiens donc, et demain ce sera au tour de la SNCF. Les syndicats ont déposé un préavis de grève.
Même revendication que leurs collègues des aéroports de Paris. Une augmentation générale des salaires, trafic très perturbé avec 2 TER sur 5, 1 intercité sur 3. Les grandes lignes seront moins touchées avec 3 TGV Inouï sur 4 en moyenne et 2 Ouigo sur 3.
L'actualité à l'étranger à 5h34 sur Europe 1, c'est cette nouvelle fusillade aux États-Unis, 6 personnes tuées près de Chicago.
Le drame s'est produit à Highland Park, ville cossue sur les rives du lac Michigan. Le tireur a visé la foule réunie à l'occasion de la fête de l'indépendance. Le tueur présumé, un jeune de 22 ans, a été interpellé. Bilan, 6 morts et au moins 26 blessés. La guerre en Ukraine va continuer. Vladimir Poutine ordonne à ses troupes de poursuivre l'offensive au lendemain de la prise de Lysychansk. Les Russes occupent désormais toute la région de Lugansk, l'une des 2 régions qui forment le Donbass.
On revient en France avec la réforme du travail en prison. Elle est entrée en vigueur il y a 2 mois et c'est l'heure d'un premier bilan.
Réforme gravée dans un tout nouveau code pénitentiaire. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, l'a d'ailleurs montré hier lors de sa conférence de presse. 6500 exemplaires imprimés à la prison de Melun en région parisienne. Caroline Baudry a pu rencontrer ces détenus dont le droit du travail se rapproche désormais du droit commun. Reportage.
90 hommes en bleu de travail déambulent parmi les monts de charge et les piles de papier. Ces détenus ont passé de lourdes portes métalliques pour rejoindre l'imprimerie à 100 mètres de leur cellule. Susano s'active devant les machines. Il est en poste depuis 7 heures ce matin.
Ça me permet déjà de sortir de la cellule, d'apprendre quelque chose. En tout, ça fait 10 ans que je suis en prison. D'être occupé, c'est déjà pas mal en prison, vous savez. Ça apporte aussi l'estime de soi.
Un vrai contrat de travail remplacera bientôt la simple feuille A4 qui lui sert de document légal. À l'intérieur, de nouveaux droits au chômage, à la retraite.
Et de pouvoir aussi, au cas d'accident de travail, de savoir qu'on est pris en charge, ça nous donne encore plus de motivation de savoir qu'en sortant d'ici, on pourra aussi profiter des efforts qu'on a fournis ici. On est utile à quelque chose, rien qu'à la société déjà.
Comme dans la société, les nouveaux contrats lient ces travailleurs, non plus à la prison, mais aux responsables de l'entreprise, comme Nathalie dans cette imprimerie.
Une fois qu'ils ont passé la porte, je veux pas savoir ce qu'ils ont fait, ni pourquoi ils sont là, ça me regarde pas et je veux pas savoir.
Pour préparer la réinsertion, Nathalie ne regarde que le travail, comme celui de Jean-Paul. Sur son ordinateur, il contrôle contrôle la mise en page avant impression.
C'est effectivement la relation avec l'employeur qui se rapproche du fonctionnement qu'on retrouvera à l'extérieur. Toujours intéressant d'avoir ce lien qui nous invite à nous comporter en société, comme on sera en société aussi, déjà à l'intérieur de la prison.
Le travail en prison diminue de 50% le risque de récidive, selon le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti.
Reportage Caroline Baudry. Le jour J pour les 700 000 candidats au baccalauréat. Les résultats seront publiés entre 8h et 15h cet après-midi en fonction des académies et du type de bac, général, professionnel ou technologique.
Et on leur souhaite bonne chance, même si tout est joué à l'heure actuelle. C'est un événement à Monaco. Le Palais Princier a rouvert ses portes et réserve quelques surprises aux visiteurs.
2 ans de fermeture pour le remettre à neuf. Les travaux de restauration ont surtout permis de mettre au jour une fresque de 600 mètres carrés datant du XVIe siècle. Un véritable trésor de la Renaissance désormais accessible aux visiteurs. Reportage Frédéric Michel.
On gratte centimètre après centimètre pour dégager cette couche-là au scalpel.
Centimètre par centimètre, il a vu les fresques se dévoiler. Chargé de la restauration du palais, Christian Gauthier a suivi les travaux depuis le premier jour.
C'est une œuvre qui se présente à nous aujourd'hui, qui fait plus de 600 mètres carrés, qui a imposé une durée de travaux énorme. Ce que vous voyez là est à peu près à 75% de la fresque originelle du XVIe siècle. Et nous nous trouvons sous la fameuse galerie où on voit les 12 travaux d'Hercule. Donc. Et c'est cette voûte-là qui a été la première découverte qui a été réalisée au palais.
De la galerie d'Hercule à la salle du trône, le public peut désormais contempler ces fresques inestimables. Thomas Fouilleron, historien du palais.
On est dans un décor de la Renaissance. C'est exceptionnel aujourd'hui de découvrir une telle surface de fresques remontant au XVIe siècle. Alors évidemment, c'est une enquête policière parce que les questions qui se posent immédiatement, c'est que représente-t-on ? Qui les a peintes ? Alors on a des faisceaux évidemment de présomption.
Et le palais a encore des secrets à livrer. Une fresque intacte a été découverte en perçant un faux toit, un trésor caché à la vue de l'homme depuis plusieurs centaines d'années.
Reportage Frédéric Michel. Le football, c'est désormais officiel. Christophe Galtier est bien le nouvel entraîneur du PSG. Il s'est engagé pour 2 saisons et dirigera son premier entraînement cet après-midi. Le tennis, c'est terminé pour Alizé Cornet et Harmony Tan, éliminé en 8e de finale à Wimbledon. Il n'y a plus de Français sur le gazon londonien. Enfin, le Tour de France. Après une journée de repos, les coureurs reprennent la route. 4e étape entre Dunkerque et Calais, 171,5 km. Le maillot jaune toujours sur les épaules du Belge de la Jumbo-Visma, Wout van Aert.
Merci beaucoup Christophe Lamar pour toutes ces informations. On passe aux courses. Les pronostics du Quintet, Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est sur l'hippodrome de Vichy que va se courir ce Quintet. Et parmi les 14 partants répartis sur 2 poteaux différents de départ, 2950 et 2975 mètres, j'ai choisi les numéros 11, Fantasia de Ligny, et 8, Fiesta du Belvert. 2 chic juments, performantes, quel que soit le parcours proposé, et qui, sans incident, devraient pouvoir à coup sûr conclure dans les 5 premiers. On leur opposera les numéros 10, Fréno, 4e le 22 juin à Toulouse, dans le sillage de Fantasia de Ligny, l'une de mes 2 favorites, 6, éditeur Laravel, préparé de longue date pour cet objectif et qui évoluera cette fois pieds nus sans ses 4 fers, et 13, favori de Liton, certes décevant depuis plusieurs mois, mais que l'on dit le matin à l'entraînement en très net regain de forme. Enfin les numéros 14, Élan Baroc, 9, Héra de Lavadour et 4, Farceuses du Pré, ont eux aussi des arguments à faire valoir pour postuler à l'une des 5 premières places de ce Quintet. Mon pronostic, 11, 8, 10, 6, 13, 14, 9 et 4.
Et 4, je l'ai noté, 11, 8, 10, 6, 13, 14, 9 et 4, des pronostics de Thierry Léger à retrouver sur europe1.fr. Oh ben je ne les ai pas tous trouvés, enfin j'ai pas encore joué. Mais je vais le faire.
Vous le saurez.
Voilà. Merci Thierry.
Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
C'est François qui est mort au milieu de la...
C'est le premier jour de l'euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
Le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
Il y a presque 80 ans, en 1946, un 5 juillet, est créé en France le premier bikini. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Une 20aine d'années après le bikini arrive le monokini, précisément en 1964. Et il fait clairement polémique à l'époque, en plein milieu des années 60.
Oui, à l'origine, c'est un maillot de bain, une pièce avec des bretelles, mais qui montre les seins. Alors, un peu gênant ou pas ? Réponse sur Europe numéro 1 de cette femme mannequin en 1964. Cette femme pose dans ce maillot de bain à côté d'une piscine.
Moi, j'ai vu un attroupement, c'est à cause de votre costume de bain.
Oui, c'est ça.
La nouvelle mode, c'est simplement d'avoir un maillot en bas.
Je ne sais pas si ça, c'est la nouvelle mode, mais peut-être ça va venir dans quelques années.
Si vous allez au bord de la mer, vous porterez ce maillot sur les plages?
Si c'est privé, oui, parce que sinon c'est un peu gênant avec les gens qui regardent tout le temps.
Trop indécent aussi pour d'autres femmes qui s'expriment en cet été 1964.
Et vous?
Ah, moi j'ai fait du nudisme à l'île du Levant. Je suis pour le nudisme, mais je trouve que cette demi-mesure, justement, ça a un côté exhibitionniste.
Et vous, madame?
Je trouve ça parfait, monsieur, pour la jeunesse. Mais ça va rendre les personnes âgées très jalouses. Parce que pour ce maillot de bain, il faut avoir vraiment des beaux seins.
Et effectivement, dans les boutiques en cet été 64, ce sont surtout les jeunes femmes qui achètent ces tout nouveaux maillots de bain.
À la fin des années 70, Laure, c'est le string qui fait son apparition sur les plages.
Oui, le monokini n'est plus tabou. Sur les plages, les gendarmes verbalisent les nudistes, mais plus les femmes aux seins nus. Et effectivement, le string apparaît lui aussi sur Europe 1 en 1978. Le journaliste Alexandre Fronty raconte.
Pour certains, le monokini, ça ne suffit plus. On a donc inventé le string à la brésilienne. C'est une ficelle, un fil, dirais-je, une sorte de cache-sexe qui ne cache en fait que l'essentiel. Conséquence en tout cas de cette fin du soutien-gorge, qui se vend d'ailleurs de moins en moins, ce sont les coups de soleil qui font des ravages.
Et en ce même été 1978, ce patron d'une plage à Nice parle de l'évolution des mœurs. Il avait eu quelques problèmes quelques années avant parce qu'il autorisait les seins nus sur sa plage.
C'est moi qui ai eu la première plage au sein nu. J'ai même été défendu par Maître Badinter à la 9e chambre à Paris.
À l'époque, parce que vous aviez des ennuis?
Parce que j'avais des ennuis et des clients à moi avaient des ennuis. Et c'est ce qui a fait, en fait, à travers cette procédure, que tout ça est rentré dans les mœurs. C'est un phénomène un peu sociologique, en fait.
À ce moment-là, disait cet homme, donc à la fin des années 70, une femme qui portait un maillot de bain avec un soutien-gorge se faisait beaucoup plus remarquer que celle qui n'en avait pas.
Merci beaucoup, Laure d'Autriche, et à demain pour un nouveau jour où comment ne pas exploser son budget course au supermarché quand les prix ne cessent d'augmenter. On en parle dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, la France bouge.
Par Elisabeth Assayag.
Grâce à leurs innovations, on peut contrôler plus rapidement les passeports, les documents numériques dans les aéroports. Ce groupe fait partie des spécialistes de la sécurité aéroportuaire. Le vice-président exécutif pour l'identité et la sécurité numérique de Thales est l'invité de la France bouge.
La France bouge.
Alors à tout à l'heure, dès 13h sur Europe 1.
Peugeot. Il est entre 2 et 6 heures du matin. Et si vous m'écoutez, c'est que vous faites partie de la famille des Lefteaux. Et comme plein de Lefteaux, vous êtes artisan ou commerçant au volant de votre utilitaire, réfléchissant à tout ce qu'il y a à faire aujourd'hui et vibrant au rythme des ronflements du moteur. Alors que vous pourriez au moins vous épargner ça au réveil. Oui, ça, les vibrations et le bruit du moteur, en passant à l'électrique. L'électrique, tôt ou tard, vous y viendrez. Alors autant le faire très tôt, avant tout le monde.
Toute la gamme utilitaire Peugeot existe en 100% électrique. Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Excellent début de matinée à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h44 et on parle à nouveau ce matin de notre pouvoir d'achat. D'après les prévisions de l'INSEE, l'inflation a été de près de 6% le mois dernier et devrait approcher les 7% en septembre. Alors pour faire face à cette augmentation croissante des prix, beaucoup de Français tentent de réduire le ticket de caisse quand ils font leurs courses au supermarché. Mais est-ce que le prix d'un aliment est un bon indicateur quant à sa qualité nutritionnelle et son goût ?
Bonjour Angélique Houlbert.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes diététicienne nutritionniste. Vous signez le livre Le Bon Choix au supermarché, paru aux éditions Thierry Soucard. D'après une récente enquête Ipsos, 85% des Français estiment qu'avoir une alimentation de qualité coûterait trop cher. Est-ce que bien manger, Angélique Houlbert, est accessible à tous les budgets ?
En fait, votre chiffre, il ne m'étonne pas du tout. Et ça fait très longtemps qu'on entend ça, que de bien manger, ça coûte cher. Or, non, il faut vraiment vous enlever ça de l'esprit. Par contre, effectivement, il faut faire parfois quelques petites modifications. Ça, on est bien d'accord sur... on peut regarder son ticket de caisse, par exemple. Moi, je fais souvent faire ça aux patients. Je leur demande de ramener le ticket de caisse et de surligner ce qui n'est pas forcément indispensable. Alors, on se retrouve avec des petites gourmandises à droite à gauche. Et globalement, parfois, ça peut représenter un tiers du budget. Donc, quand je disais qu'il faut essayer de modifier un peu l'alimentation, c'est surtout prendre conscience que certains aliments n'ont pas forcément à être dans nos placards, dans nos réfrigérateurs et que... On pourrait peut-être plus cuisiner, on pourrait peut-être mieux les choisir. Voilà, il y a quelques petites choses à faire, quoi.
Ce qu'il faut craindre, Angélique Houlbert, c'est que les ménages pour lesquels les fins de mois sont difficiles doivent choisir entre leur santé, la planète en allant sur du bio, et leur portefeuille.
Oui, alors exactement. Donc ça, c'est sûr qu'il faut essayer d'avoir justement cet équilibre entre, on va essayer de mieux manger. Parfois, c'est aussi manger moins, mais manger mieux. Hein. Ça, c'est une devise qu'on doit surtout avoir. Pas forcément se jeter sur des aliments bio qui seraient ultra transformés, auquel cas, là, vous allez les payer très, très cher. Donc, je dirais ne pas forcément, là, vous parlez de bio, ou vous parlez même d'autres logos, par exemple. Il ne faut pas forcément se fier à ça. On va plutôt essayer de se dire, on va revenir à une alimentation brute. Déjà, quand on commence par ça, brute, ça veut dire peu ou pas transformé, plutôt que d'aller choisir une quiche, une pizza qui est déjà toute faite, toute préparée. Là, effectivement, le prix au kilo va être important. Donc, plutôt se dire, je vais plutôt préparer ma quiche avec mes ingrédients, comme ça, je vais les avoir choisis aussi. Ça va être bon pour ma santé parce que je vais avoir choisi de A à Z tous mes ingrédients. Je ne vais pas avoir ajouté des additifs, je ne vais pas avoir ajouté des arômes artificiels. Ça peut être aussi donc meilleur pour l'environnement aussi, si vous allez acheter vos produits, soit sur des marchés, faire plus local, auquel cas, effectivement, vous allez les payer aussi moins cher.
Le bon réflexe, Angélique Hulbert, ça rejoint d'ailleurs ce que vous venez de dire, c'est de bien lire la liste des ingrédients affichés sur le paquet. Hein, c'est ça, si elle est longue, il faut se méfier.
C'est la première chose que vous devez regarder. Ce n'est pas du tout le tableau nutritionnel. Vous savez, il y a un tableau qui est absolument illisible par tout le monde, hein, sauf des experts. Non, ce que vous devez regarder, c'est ingrédients, deux points, et vous lisez la liste des ingrédients. Il faut que votre enfant d'une dizaine d'années soit capable de comprendre tous les mots qu'il lit. Voilà, plutôt ce qu'on appelle, nous, vraiment des aliments et pas des ingrédients. C'est-à-dire que s'il y a du sucre, ok, évidemment, on ne va pas en abuser, mais c'est mieux que le sirop de glucose. Parce que le sirop de glucose, il va élever rapidement votre glycémie. Si vous voyez du beurre, ah oui, ça va être nettement mieux que des huiles qui vont être partiellement hydrogénées. La farine, c'est mieux que des amidons transformés. Vous voyez, c'est vraiment quelques petites choses à regarder sur la liste des ingrédients qui va permettre de faire comme si c'était à la maison. Alors là, ça peut être sur un paquet de gâteaux, par exemple. Ça peut être voilà, sur tous les produits du quotidien que vous avez l'habitude d'acheter, qui sont déjà transformés et pas ultra transformés. Alors que si vous avez des repas, donc structuré et varié au maximum avec un maximum de végétaux. Et là, des fruits, des légumes, des légumineuses, des céréales, voilà, j'inclus ça. Le végétal, pour moi, c'est ça. Donc, plus vous allez apporter d'aliments comme ça, qui sont complets, que vous avez vous-même transformés, et plus ça va vous caler, plus vous allez avoir un sentiment de satiété qui va perdurer, qui va vraiment vous tenir toute l'après-midi, quoi.
Pour réduire la facture, on va se tourner naturellement vers des produits premier prix. Un premier prix est-il forcément de moins bonne qualité que son équivalent d'une marque connue ? Est-ce que c'est moins bon d'un point de vue du goût ?
Ouais, alors pour vraiment avoir arpenté hein, tous les rayons des grandes surfaces, je fais vraiment le distinguo entre les premiers prix, vraiment les premiers prix, les marques distributeurs. Vous savez, les marques où vous allez faire vos courses, hein, de l'enseigne où vous allez faire vos courses, et les grandes marques. Je dirais que dans les premiers prix, faites attention parce que ce n'est pas pour rien parfois. C'est-à-dire que là, effectivement, on va retrouver dans du jambon des phosphates. Alors, ces phosphates, ils vont gonfler artificiellement le poids du jambon. Ça va être de l'eau, quoi, en gros. Vous allez retrouver parfois de l'eau en premier ingrédient dans votre produit. Ou alors d'autres additifs qui sont quand même moins intéressants. Ou, par exemple, dans une soupe qui serait prête à l'emploi, on va retrouver plus de pommes de terre que de légumes. Voilà, bon, ça peut être moins intéressant. Ce qui est par contre, les gens pensent que quand ils vont acheter une grande marque, une marque nationale, c'est plus cher, donc c'est forcément meilleur. Non. Ça, on a vraiment vu que quand certaines marques distributeurs étaient équivalentes, voire même parfois supérieures à des grandes marques. Mais alors non, là, dans tous les rayons, hein, que ce soit bonbons, épicerie sucrée, salé, frais, peu importe. Faites attention, acheter une grande marque n'est pas forcément un gage de qualité. Et là encore, il faut vraiment regarder la liste des ingrédients parce que parfois, on est très étonné. Hein, là, je pense aux bonbons, hein, ce n'est pas forcément très raccord, mais en même temps, il faut se faire plaisir aussi. Là, on a dans des bonbons de marque distributeur des arômes naturels, on peut avoir des colorants naturels, alors que dans les grandes marques, là, ce n'est pas le cas. On va se retrouver avec des arômes artificiels et des colorants artificiels aussi. Donc, je dirais que bon, les premiers prix, faites quand même attention parfois. Oui, c'est pas forcément du beurre utilisé, pas du sucre, pas de la farine, mais tous ces ingrédients issus du cracking, hein, issus du craquage, du fractionnement des aliments. Donc ceux-là sont plus des ingrédients hein, que des vrais aliments. Mais voilà, le fait de payer un produit beaucoup plus cher n'est absolument pas un gage de qualité.
Merci beaucoup Angélique Hulbert d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Europe 1. Vous êtes diététicienne nutritionniste et je rappelle le nom de votre livre, Le bon choix au supermarché. C'est aux éditions Thierry Soucard. Bonne journée.
Merci à vous, au revoir.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
5h51, pardonnez-moi, le journal permanent, Alban Le Prince.
Grève massive demain à la SNCF pour obtenir une augmentation générale des salaires, prévoyant en moyenne 2 TER sur 5, un intercité sur 3 ou encore 2 Ouigo sur 3. Le trafic sera également très perturbé sur les TGV. 19 entrants, 5 sortants, 41 membres au total. Le gouvernement d'Elisabeth Borne nommé hier. Dès ce matin, une réunion est prévue avec une dizaine de ministres pour trouver des outils de lutte contre l'inflation avant la présentation du projet de loi pouvoir d'achat jeudi en Conseil des ministres. Et puis un Marseillais à Paris, Christophe Galtier, nouvel entraîneur du PSG pour 2 saisons. Le club parisien doit officialiser son arrivée lors d'une conférence de presse cet après-midi à 14h au Parc des Princes.
Allez, on retrouve notre meilleur libraire.
Bonjour Nicolas Carreau.
Bonjour Ombline, bonjour Julien.
Bonjour Nicolas. Alors ce matin, vous nous donnez quelques idées de livres à emporter cet été.
Oui, différents formats, mais tous très bons. D'abord, je vais vite parce qu'on connaît déjà, mais je vous signale que L'Anomalie d'Hervé Le Tellier est sortie en poche chez Folio.
C'est le prix Goncourt 2020.
Tout juste, et aussi un petit chef-d'œuvre avec une question. Et si notre monde n'était qu'une simulation informatique, si nous n'étions que de vulgaires Sims? Ça fait peur. Dans un autre style de frayeur, il faut absolument lire Blackwater chez Monsieur Toussaint Louverture. En plus, c'est un pari éditorial courageux. Blackwater a été écrit dans les années 80 par Michael McDowell. C'est l'homme qui a inventé Beetlejuice, vous savez. Mais là, rien à voir. 6 tomes en format poche, mais alors très soigné, couverture en surimpression. Ce sont aussi des objets magnifiques. 6 tomes qui ont été publiés depuis avril, tous les 15 jours, avec la complicité des libraires, c'était un risque et c'est déjà un carton. C'est un feuilleton comme au 19e siècle ou comme les séries Netflix, un genre qui s'est un peu perdu en littérature. Tout ça pour dire que l'histoire est addictive. Ça se passe dans la première moitié du 20e siècle à Perdido, une petite ville en Alabama qui, tout au début du roman, a subi une inondation terrible. Tout le monde a évacué le village, mais quelques jours plus tard apparaît une femme, très belle, avec des cheveux couleur argile. Est-ce une créature fantastique, maléfique? Peut-être, vous verrez, mais surtout on suit ce qui s'avère être une fresque familiale intense et jubilatoire.
Et puis un roman maritime, Nicolas, vous m'avez dit.
En fait, j'ai même dit le roman maritime. J'en ai déjà parlé sur cette antenne, mais je continue parce que je reçois régulièrement des mails d'auditeurs qui me remercient de leur en avoir parlé. Alors, c'est pas un livre d'ailleurs, mais 11 tomes, Les aventures du capitaine Hornblower.
Et donc, c'est un marin.
Oui, mais c'était pas gagné. Dans le premier tome, aspirant de marine, Horatio Hornblower a 17 ans, il s'engage dans la marine anglaise faute de mieux, on est en pleine guerre napoléonienne, il est aspirant, donc le plus petit grade des officiers, mais il a le mal de mer. Et je peux vous dire que ça rigole pas les batailles navales à cette époque-là, vous avez très peu de chances de survie à chaque combat, mais petit à petit, il va grimper les échelons jusqu'à finir amiral, parce que même s'il est mal à l'aise sur un bateau, il est d'une intelligence redoutable et s'en sort souvent par la ruse et le courage. Les combats sont d'une extrême violence contre les Espagnols, puis contre les Français et Napoléon. Au passage, on en prend souvent pour notre grade et le vainqueur est celui qui manœuvre le mieux son bateau, des immenses voiliers à l'époque qui connaît le mieux les vents et qui recourt à la meilleure stratégie. Et ce qui est extraordinaire dans ce livre, ces livres, c'est que même sans être un spécialiste du vocabulaire maritime, on vibre quand même avec l'équipage, on a peur avec Hornblower et on triomphe avec lui, évidemment. Et ça tombe bien, Folio est en train de tous les rééditer un par un.
Un dernier pour la route, Nicolas.
Bien sûr, au livre de poche paraît Les Jours Heureux, le très beau roman d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Beau succès en grand format, le voici donc en poche. C'est l'histoire d'Oscar, c'est un fils de deux légendes du cinéma, genre Richard Burton et Liz Taylor. Aujourd'hui, il est scénariste, mais au tout début du roman, il apprend que sa mère est gravement malade. Il est un peu désemparé, puis il décide qu'en tant que scénariste, il a peut-être le pouvoir de changer les choses, d'écrire le scénario de la réalité. Il veut absolument que ses parents se remettent ensemble et il va s'y évertuer. Or, son père est avec une jeunette franco-russe, Natalia. Il y a quelques obstacles à franchir. C'est un roman qui ne s'arrête jamais. Un rebondissement par page. On voyage. Un page-turner hyper romanesque.
Les Jours Heureux, donc Blackwater, L'Anomalie et Les Aventures d'Hornblower. Merci beaucoup, Nicolas Carreau, pour ces bons conseils lecture d'été.
Alors, piscine indispensable dans le sud-est, raison des fortes chaleurs. Hein.
Absolument, Julien. D'ailleurs,
Marie Duret, pardonnez-moi.
C'est pas de problème, pas de problème. La vigilance jaune canicule est maintenue dans 7 départements. Alors, il y a le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes de Haute-Provence et les 2 départements corses en raison des températures élevées, les mini comme les maxi. Le Luc, par exemple, dans le Var, affichait 38 degrés hier. On les a même dépassés en Corse du Sud. Et bien, aujourd'hui, rebelote, hein, 35 à 39 degrés du Roussillon à la Provence. France. Ailleurs, bon, c'est une chaleur plus raisonnable, disons-le, avec le plus souvent 22 à 29 degrés, avec 27 dans la capitale. Et du côté du ciel, bon, c'est le soleil qui domine. On va noter simplement un ciel un petit peu plus chargé vers les Pyrénées, avec un risque d'orage sur l'est de la chaîne pyrénéenne qui pourrait déborder. Ces orages pourraient déborder sur la plaine du Roussillon en fin de journée. Et puis le vent dans le sud-est, c'est important, puisqu'il peut être facteur de dégâts, et notamment de feux de forêt.
Merci beaucoup Marlène Duret pour cette météo. Il est 6h sur Europe 1. Soyez tous les bienvenus. Fumer ou boire avant de prendre le volant, c'est déjà arrivé à presque un jeune sur deux. Une enquête stupéfiante nous apprend également qu'inhaler la fumée de cannabis de ses passagers est tout aussi dangereux. Explication à suivre dans ce journal. Le gouvernement Elisabeth Borne II ne fait pas l'unanimité. Accueil mitigé, notamment pour le nouveau ministre de la Santé, François Braun. Nous serons aux urgences de Toulouse. Et puis le Tour de France s'installe en France après 3 jours au Danemark. Les camping-cars se dirigent déjà vers les montagnes pour avoir les meilleure place.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 6h ce matin, le journal vous est présenté par Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Alcool, drogue, près d'un jeune sur deux chez les 18-24 ans a déjà ou fumé un joint ou bu avant de prendre le volant. C'est une enquête stupéfiante menée par la MAF dont nous vous parlons ce matin sur Europe 1. Alors que les accidents de la route ne cessent de grimper, autre enseignement, 20% des conducteurs sur 5 laisseraient les passagers fumer dans l'habitacle de la voiture. Et ça, Yasmina Katou, c'est une consommation passive qui est tout aussi dangereuse.
Oui, c'est ce que l'on appelle l'effet aquarium, une sorte de tabagisme passif. Imaginez une voiture, vitre fermée, où 2 passagers sur 3 fument des joints. L'habitacle se transforme alors en fumoir. Celui qui ne consomme pas de cannabis inhale la fumée malgré lui. Selon l'enquête de MAF Prévention, parmi les 18-24 ans, un jeune sur 5 dit avoir déjà laissé des amis fumer de l'herbe dans sa voiture. Et les conséquences peuvent être lourdes, prévient Pierre Nègre, responsable prévention chez MAF.
Ça va très vite, c'est le simple fait d'inhaler à l'intérieur. En cas de contrôle, le test réagira de manière positive. Et pas nécessairement faire des milliers de kilomètres. Hein. Si vous avez un accident, vous n'aurez absolument pas de prise en charge puisque vous ne serez pas assuré, au vu de la loi et de l'assurance.
La consommation de cannabis multiplie par 2 le risque d'avoir un accident mortel. Selon la sécurité routière, chaque année, 700 personnes meurent dans une collision impliquant un chauffeur qui a consommé de la drogue.
Les explications de Yasmina Katou pour Europe 1.
Un vaste chantier que celui de la santé, avec un nouveau ministre donc qui a pris ses fonctions hier.
François Braun qui s'installe à la place de Brigitte Bourguignon, battu aux législatives. Cet urgentiste de Metz est notamment l'auteur d'un rapport qui contient 41 recommandations pour améliorer les urgences. Pas franchement bien accueilli justement dans cet hôpital de Toulouse où précisément les urgences sont en grève jusqu'à 8h ce matin. Le reportage de Benjamin Péter.
C'est le 5e lundi d'affilée qu'ils sont en grève pour demander plus de personnel. Alors pour Mathieu Félix, qui est manipulateur radio aux urgences et délégué CGT, la nomination de François Braun ne changera pas grand-chose.
On ne peut pas s'offusquer aujourd'hui de voir la situation quand on l'a créée soi-même en réalité, puisque les fermetures de lits, les fermetures de postes, M. Braun, j'imagine qu'il est chef de service et qu'il a validé ses politiques d'austérité dans les hôpitaux qui ont amené à la situation qu'on connaît aujourd'hui.
Mais pour Gilles Poulaillon, qui est infirmier aux urgences du CHU de Purpan, le fait que le ministre soit un urgentiste peut lui permettre d'être plus efficace. Pour lui qui fait grève pour la première fois en 8 ans, il faut répondre très vite au malaise des soignants.
Sur le papier, je trouve ça très bien. Maintenant, M. Véran était neurologue, ça n'a pas réglé tous les problèmes de la neurologie, mais attendons de voir. Quoi. Nous, on ne demande pas des augmentations de salaire, on demande des besoins humains en plus. Quoi. Et ça, il faut y répondre maintenant. L'exercice de notre métier devient dangereux. Moi, quand je m'occupe de 25 patients, je suis incapable de dire le nombre des personnes et encore moins les pathologies pour lesquelles ils sont aux urgences et encore moins quels soins je dois leur faire. Quoi.
Et tous sont conscients qu'il faudra malgré tout du temps, notamment pour responsabiliser la population. Alors que près de 40% des patients qui se présentent ne relèvent pas des urgences et pourraient être pris en charge par un médecin de ville. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
Autre chantier prioritaire pour l'exécutif, le pouvoir d'achat avec ce possible nouveau coup de pouce pour les automobilistes.
Une aide financière destinée aux actifs qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler et qui font à peu près 12 000 km par an. À Bercy, au ministère de l'économie, on estime qu'environ 11 millions de foyers sont concernés. Ils toucheraient jusqu'à 1 600 net euros par mois. Ils peuvent peuvent y prétendre.
Le gouvernement a donc, on le comprend, du pain sur la planche, mais encore faut-il pouvoir faire voter les lois au Parlement.
Oui, Elisabeth Borne devra prononcer demain sa déclaration de politique générale devant les députés, mais elle n'engagera pas la responsabilité de son gouvernement, faute de majorité suffisante.
La Première ministre qui a eu la tête de Damien Abad.
Oui, et voici ses propos. Il y a un devoir d'exemplarité des responsables politiques, c'est ce qu'elle disait au magazine Elle. La situation n'était donc plus tenable pour Damien Abad, visé par une enquête pour tentative de viol, et qui va désormais se consacrer à sa défense.
Il paraissait préférable, face aux calomnies ignobles dont je suis la cible, orchestrées dans un calendrier bien choisi, que je puisse me défendre sans entraver l'action du gouvernement. Je me défendrai sans relâche, jusqu'à que la justice confirme mon innocence. Je me battrai aussi contre ce mouvement funeste qui relègue la présomption d'innocence au rang de vieillerie sans importance et qui fait de la calomnie une redoutable arme politique entre les mains d'esprits malveillants.
Damien Abad au micro Europe 1 d'Alexandre Chauveau.
Dans le reste de l'actualité, à 6h05, ce stress qui commence à monter dans de nombreuses familles françaises.
Oui, vous vous souvenez, hein, Julien, de ce jour où vous cherchiez votre nom sur la liste des reçus au bac. Eh bien, on y est. Ils sont plus de 710 000 à attendre fébrilement les résultats, sans compter évidemment les parents. Entre 8 et 10 heures, hein, ce sera ce matin, selon les académies. Et le cru pourrait être bon puisque certains profs se sont aperçus que leurs notes avaient été parfois remontées d'un, deux, voire trois points par l'Éducation nationale.
Ah oui, bon, les données finalement. Le Tour de France de retour dans l'Hexagone.
Après trois étapes au Danemark, ça y est, voilà la grande boucle chez nous avec une escale demain par les pavés du Nord. Ce sera l'une des étapes marquantes, tout comme celle de montagne, les préférées du public. Et d'ailleurs, les camping-cars se dirigent déjà vers les lacets du mythique col du Galibier dans les Alpes. Les coureurs y passeront les 13 et 14 juillet. Et Jean-Luc Boujon est allé à la rencontre de ces camping-caristes qui lornent déjà sur les meilleures places.
Didier Martin, retraité, est un fondu du Tour de France. Avant, c'est devant sa télé qu'il le suivait chaque été. Mais depuis trois ans, il le vit en vrai à bord de son camping-car. Petite visite guidée.
Je passe devant vous. Hein.
Allez.
Alors donc là, bon, j'ai mon petit coin pour manger. Là, j'ai ma coin cuisine avec mon four micro-ondes, mon four, mon lit. Puis là, vous avez la salle de bain, je peux vous l'ouvrir.
Ça. Ouais.
La salle de bain et WC, tout est là. Penderie, c'est une maison mais en miniature. Là, j'ai tout avec moi, comme si j'étais à la maison. Là.
Voilà donc 15 jours qu'il est parti de Châteaudun en Eure-et-Loire, 700 km direction les Alpes. Dans quelques jours, il ralliera le col du Galibier que les coureurs graviront deux fois le 13 et le 14 juillet. Mais il faut y être bien en avance, explique Didier.
Moi, j'y serai samedi le 9. Comme tous ceux qui veulent voir le quelque chose, il faut arriver au moins 3 jours avant. Mon frigo Saint-Blain pour 5 jours. Ah oui, mais je vais rester 5 jours là-bas. Mais je serai pas tout seul. Hein. Il va y avoir du monde. Des Italiens, des Anglais, beaucoup d'Hollandais, les Belges. En redescendant sur Valoire, là, je pense qu'on va pouvoir se garer et on aura une belle vue. On les verra arriver de loin. Donc pour ça que ça va être bien.
Didier encouragera notamment les Français, Bardet, Pinot, Gaudu, et il envisage même d'aller les revoir dans les Pyrénées sur l'étape de Rocamadour le 23 juillet, toujours avec son fidèle camping-car. Verchet dans les Alpes, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Et le Tour de France, évidemment, c'est tous les jours sur Europe 1, notamment avec Martin Loge, que vous retrouvez à 8h30.
Merci beaucoup pour ce journal, Lénaïque Monnier. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Il est 6h07, les sports avec Dimitri Vernet et on débute, Dimitri, par du football. La nomination des entraîneurs parisiens et marseillais.
Et oui, commençons d'abord par le Paris Saint-Germain qui enregistre l'arrivée de Christophe Galtier. L'ancien entraîneur de Nice, Lille et Saint-Etienne a signé un contrat de 2 ans avec le club de la capitale hier soir. Sa présentation à la presse est prévue aujourd'hui à 14h, juste avant la reprise de l'entraînement collectif dans l'après-midi. Et du côté marseillais, le croate Igor Tudor, ancien entraîneur du Hellas Vérone, un club italien, succède à Jorge Sampaoli. Il s'est engagé avec le club phocéen pour 2 ans.
On passe au cyclisme, Dimitri, au Tour de France.
Et oui, après l'excursion danoise, retour en France aujourd'hui pour le peloton mené par le maillot jaune Wout van Aert, avec cette 4e étape reliant Dunkerque à Calais. Julien Jourdi, le directeur sportif de l'équipe AG2R Citroën, est heureux de retrouver les routes françaises.
Le Tour de France, c'est bien sûr en France, à travers nos campagnes, nos belles routes, nos plaines, nos montagnes. Donc forcément, il y a beaucoup d'intérêt de la part des coureurs de revenir sur des parcours qu'ils connaissent, qu'ils apprécient. Voilà, donc beaucoup de satisfaction de revenir sur le territoire français.
Julien Jourdi au micro Europe 1 de Martin Lange. Départ de cette 4e étape qui devrait sourire aux sprinteurs à 13h15. Et puis un mot de Wimbledon avec hier la fin de parcours pour nos deux dernières Françaises qui étaient encore en lice en 8e de finale. Alizé Cornet s'est inclinée face à l'Australienne Tomljanovic en 3 manches, 4-6, 6-4, 6-3. Et Harmonitane n'a rien pu faire face à l'Américaine Anisimova et a abdiqué en 2-7, 6-2, 6-3. Mais la Parisienne de 24 ans sait que ce parcours à Londres va l'aider pour la suite.
Oui, bah c'est sûr que ça va m'aider pour la suite des tournois, surtout des plus grands tournois, parce que je sais que je peux battre maintenant de bonnes joueuses et aller de plus en plus loin avec ce joueur. Il y a encore énormément de choses à travailler. Il faut que je prenne la balle encore beaucoup plus tôt, d'être plus agressive encore dans mon jeu. Donc on va continuer dans cet axe-là et je pense que ça peut le faire.
Suite de la compétition aujourd'hui avec le début des quarts de finale.
Merci beaucoup. Dimitri Vernet, c'était le Journal des Sports.
Vous restez avec nous. Dans un instant, je reçois la politologue Anne-Charlène Bézina. On va revenir sur le remaniement, mais aussi le discours de politique générale demain d'Elisabeth Borne. A tout de suite.
5h, 6h30.
Europe Matin.
Il est 6h11. Votre invité, Julien, est politologue et maître de conférences en droit public à l'Université de Rouen.
Bonjour Anne-Charlène Bézina.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en ligne avec nous au lendemain d'un remaniement qui soulève de nombreuses questions, beaucoup de mouvements, mais finalement pas d'élargissement. On a même trois ministres du premier quinquennat qui font leur retour, Marlène Schiappa, Geneviève Darrieussecq et Sarah El Haïry, qui retrouvent d'ailleurs exactement le même secrétariat d'État à la jeunesse. Est-ce que l'exécutif tourne en rond ?
C'était compliqué comme situation puisque de toute façon, on avait affaire à une majorité qui entendait s'ouvrir, en tout cas un gouvernement. On a parlé d'abord d'unité nationale et puis ensuite on a rétrogradé vers un gouvernement pluraliste et puis on a encore rétrogradé avec le remaniement que l'on voit. Finalement, c'est une équipe d'épure serrée qui ressemble à s'y méprendre à celle de 2017. Donc on revient carrément en arrière par rapport à ce qui nous avait été annoncé avec le gouvernement Borne 1. Mais alors que les oppositions entendent plutôt jouer la force et donc démontrer qu'elles ne font pas partie de cette majorité, on voit mal finalement comment le gouvernement aurait pu s'ouvrir, notamment parce que les prises de guerre, comme on aime bien les qualifier, peuvent être complexes aussi dans une période où le Parlement est très inflammable. Donc si vous mettez le groupe LR par exemple un peu en délicatesse dans ces moments en allant chercher quelqu'un de particulièrement représentatif, eh bien ça peut être très dangereux. Donc il y a un gouvernement qui est resserré sur la majorité En Marche, avec notamment toutes les nuances Ensemble, un peu d'Horizon, un peu de Modem, un peu de En Marche, pour essayer de ressouder aussi la majorité à l'intérieur. C'est également ce qui s'était passé dans le cadre de nos majorités courtes, hein, où finalement la majorité se ressoude elle-même autour de ces différentes nuances, surtout pour éviter l'implosion de l'intérieur. Donc on a un gouvernement de sécurisation des positions, même si la bataille au Parlement risque quand même d'être vraiment sportive.
Lors du Conseil des ministres hier, Emmanuel Macron a pointé du doigt l'attitude des partis de gouvernement, comme il les appelle, le PS et LR, qui n'ont pas accepté de participer à ce gouvernement. Est-ce que c'est aussi simple que ça ?
C'est une manière aussi de raconter une histoire, c'est-à-dire que le président a fait son discours les semaines passées en précisant en quelque sorte que cette majorité relative n'était pas tant un problème pour la majorité que pour les oppositions. C'est-à-dire qu'il a précisé, voilà, moi président, j'ai été élu sur tel programme que j'entends mener à bien, j'ai une majorité pour cela, à charge pour les oppositions de savoir si elles veulent participer ou non. Là, cette communication auprès du Conseil des ministres est à nouveau sur ce ton, et en quelque
c'est
sorte...
C'est un peu une provocation tout de même, sachant que
oui, c'est une manière de remettre la balle dans le camp de l'opposition, en fait.
En tout cas, ça annonce beaucoup de travail pour le ministre des Relations avec le Parlement, qui est désormais Franck Riester, qui remplace Olivier Véran, nouveau porte-parole du gouvernement. Riester, c'est parce qu'il vient de la droite, et que ce sont principalement des députés de droite qu'il va falloir convaincre pour passer les lois.
Oui, il a également été à la tête un moment du groupe UDI, où c'est un groupe où nécessairement on sait plus ou moins faire du compromis, ou en tout cas aller chercher notamment certaines alliances. Peut-être que cet atout a pu apparaître. Néanmoins, c'est pas nécessairement aussi quelqu'un qui soit très rompu à l'exercice parlementaire ou qui soit réputé pour son caractère politique. Mais c'est une manière aussi d'ouvrir un petit peu en effet à la jambe droite, on va dire, de la majorité. Et puis voilà, cette connaissance d'un groupe de minorités peut peut-être aider à aller négocier plus simplement avec le Parlement. Ça va vraiment être un ministère clé parce que c'est notamment par lui que passe toute la relation avec le Parlement au sens propre, c'est-à-dire la fixation de l'ordre du jour, des questions comme celle-ci qui vont être sûrement très tendues en période de majorité relative. Donc il faudra savoir négocier.
D'ailleurs, est-ce que vous diriez, Anne-Charlène Bézina, que ce gouvernement Borne 2 penche davantage à droite que le précédent ? Je vous pose cette question parce que la transition écologique, qui était l'un des gros axes de campagne de l'entre-deux-tours de la présidentielle, est désormais dixième dans l'ordre protocolaire, alors que ce ministère était cinquième avant le remaniement. Les électeurs de gauche qui ont voté Macron dans l'entre-deux-tours vont apprécier.
Ah ben en effet, notamment parce qu'on avait un petit peu schématisé le Borne 1 en se disant bien le régalien et la sécurité restent à droite, mais tout ce qui concerne le social va finalement rester à gauche. Et là, on a l'impression qu'on rétrograde un petit peu aussi de cette posture-là, puisque finalement tout se retrouve au centre dans la Macronie, même si au fond le repositionnement autour de Gérald Darmanin et de Bruno Le Maire est en effet nécessaire aussi pour parler au groupe LR, qui sera sûrement celui qui va aider un petit peu au cas par cas à faire les alliances. Donc c'est une manière de montrer que le régalien, les deux pôles importants, vont rester à droite. Donc on a fait disparaître en effet la pirouette d'entre-deux-tours qui consistait à dire que le quinquennat se jouerait à gauche, et on le voit avec la place de l'écologie, comme vous le dites, qui non seulement rétrograde dans l'ordre de protocolaire, mais aussi dans la représentativité des ministres. Christophe Béchu, parce que notamment on n'a pas choisi quelqu'un de rompu à l'exercice environnemental. Il y avait deux batailles à jouer. Il y avait la bataille parlementaire, mais il y avait aussi la bataille de l'opinion. Et finalement, on n'a pas choisi quelqu'un de connu de l'opinion, de particulièrement investi dans la cause environnementale. Donc, à voir, hein, nécessairement, peut-être qu'à l'usure, un ministre peut s'avérer tout à fait investi. Mais c'est vrai qu'on perd finalement les effets d'annonces qui avaient été ceux du gouvernement Borne 1 sans nécessairement répondre aux leçons qui sont celles des urnes entre-temps.
Bon, maintenant qu'Elisabeth Borne a son gouvernement, la Première ministre va s'essayer un exercice redouté, le discours de politique générale. Ce sera demain à l'Assemblée puis au Sénat. C'est un moment crucial pour elle.
Oh oui, c'est un moment très important en règle générale sous la Ve République, parce que ce discours de politique générale porte assez mal son nom. En réalité, c'est un discours de programme. On présente ce que va être le contrat de législature pendant les 5 prochaines années, et on a aussi tendance à penser que, alors que cette première ministre est en fait déjà issue du gouvernement de 2017, eh bien, elle va sûrement aussi devoir supporter une ligne de crête, c'est-à-dire un peu un bilan, un peu un avenir autour d'une majorité qui n'est pas consolidée. Donc il y a en effet peut-être des cadeaux aussi à faire dans ce discours de politique générale, en montrant l'ouverture, sans à mon avis forcément jouer le discours qui est à la mode jusqu'à présent, qui consiste à aller incriminer les oppositions, puisque l'idée c'est justement de ne pas les braquer. Donc il faut...
D'autant que ce discours ne sera pas suivi d'un vote de confiance.
Suivi d'un vote de confiance. En effet, donc il faut vraiment qu'il soit fédéral, qu'il démontre aussi pourquoi cette confiance n'a pas besoin d'être cherchée. Je reprends la phrase d'Olivier Véran, la confiance ne se discrète pas a priori, elle se construit petit à petit, texte par texte. Donc il faut que cette confiance émane finalement de ce discours de politique générale. Généralement, ce sont des discours qui sont assez longs, qui doivent être très structurés, notamment sur toutes les mesures qui doivent être déroulées. C'est peut-être aussi un peu ce qui manque depuis la réélection d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire un cap clair, un programme. Donc beaucoup de choses sont attendues de ce vrai contrat des 5 prochaines années à venir qu'Elisabeth Borne doit dérouler demain. Même sans engagement, c'est quand même là que toute la confiance va se jouer au Parlement, et un gouvernement sans attache parlementaire n'a aucune chance de continuer sous la 5e République.
Affaire à suivre donc, réponse à partir de demain après-midi. Merci beaucoup Anne-Charlène Bézina d'avoir répondu à nos questions ce matin, de nous avoir éclairé sur ce remaniement et ses conséquences politiques. Excellente journée à vous.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
6h19, les titres de l'actualité, Alban Le Prince.
Elisabeth Borne ne se soumettra pas au vote de confiance à l'Assemblée demain où elle doit prononcer son discours de politique générale. Colère de l'opposition, la France insoumise déposera une motion de censure contre le gouvernement ce mercredi. Après le remaniement intervenu hier, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur en charge des Outre-mer, et Jean-François Carenco, ministre délégué, annoncent qu'ils se rendront jeudi à la Réunion. Gérald Darmanin précise qu'il parcourra tout l'été les territoires ultramarins. Et puis aux États-Unis, l'horreur a encore frappé hier soir. Nouvelle fusillade lors du défilé du 4 juillet à Chicago. Au moins 6 morts et 26 blessés. Le tireur présumé, un jeune homme de 22 ans, a été interpellé dans la nuit.
On termine avec votre partition Omblin consacrée à une chanteuse de rhythm and blues de l'Amérique des années 50. Shirley Goodman nous a quittés le 5 juillet 2005. Elle possédait une particularité, Omblin, une voix au perché qui semblait tout droit sortie d'un cartoon.
Oui, une voix à la Betty Boop, hein, Julien. Si son nom ne vous dit rien pour le moment, j'ai le sentiment que la chanson qui l'a rendue célèbre vous sera en revanche familière. Shirley Goodman était là au tout début du disco et son timbre dans les années 70 résonnera dans de nombreux pays. Mais pour commencer, eh bien direction la Nouvelle-Orléans en 1952. La chanteuse a 16 ans, elle forme un duo avec un camarade d'école, Leonard Lee.
Aux États-Unis, le nouveau courant rock'n'roll déchaîne les passions. Et ce duo Shirley Henley permet à la chanteuse d'entamer une carrière nationale.
Le public est fasciné par cette voix aiguë, hein, si particulière, on l'entend. Et puis la maison de disques ainsi que la presse entretiennent le mystère quant à la nature de la relation entre Shirley Goodman et Leonard Lee. Ça fait vendre. Ils sont baptisés les Sweethearts of the Blues, les chéris du blues, et ils vont user jusqu'à la corde une formule qui sème encore plus le doute.
Au lieu d'associer leur voix, Shirley Henley se différencie des autres duos en faisant comme si leur chanson était une conversation.
Voilà, c'est ça leur truc, hein, pas d'harmonie. L'un des deux commence, l'autre chante en second, et ainsi de suite. Une formule plutôt rigide, et pourtant ça fonctionne, et ce n'est pas tout. Leur répertoire est construit comme une saga, comme s'il s'agissait d'un soap opéra d'une série B. Shirley Henley chante « I'm gone », qu'on entend « je m'en vais ». Ils enchaînent avec « Shirley, come back to me », implore Lee. Puis « Shirley's back », voilà, Shirley revient. Et puis « The proposal », la demande en mariage, etc.
Et ça, le public d'adolescents adore.
Oui, mais jusqu'à un certain point, il finit par se lasser de cette aventure discographique mielleuse.
Shirley Henley arrive au bout de l'exercice et elles comprennent qu'il faut laisser tomber le romantisme sirupeux.
Et passer à l'âge adulte à un rhythm and blues nettement plus charnel. Petit à petit, le duo s'essouffle et au début des années 60, il n'arrive pas à renouer avec le succès. Les années suivantes, Shirley Goodman, seule désormais, continue d'enregistrer, ressuscite de temps en temps le tandem fille-garçon avec d'autres chanteurs. Elle est choriste pour Sonny and Cher, pour les Rolling Stones, sur l'album Exile on Main Street. Et puis c'est son amie, la chanteuse et productrice Sylvia Robinson, qui relance sa carrière. Elle offre à Shirley Goodman sa dernière composition et elle l'enregistre avec un sombre inconnu, un réfugié cubain présent dans le studio ce jour-là, figurez-vous. Alors oui, encore un duo baptisé Shirley et compagnie. Ce titre les envoie sur orbite et il est considéré comme l'un des morceaux annonciateurs du disco.
Shame.
1974, la chanteuse Charlie Goodman, ou si vous préférez Charlie and Company avec Shame, Shame, Shame.
Merci beaucoup Ombline. Vous restez avec nous dans un instant. Dimitri Pavlenko sera dans ce studio pour la suite de votre matinale. À tout de suite.
Historiquement vôtre, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Aujourd'hui, venez découvrir le récit de trois personnages tout nus et pas bronzés.
La toute nue Marie-Louise O'Murphy, dont les fesses que Louis XV a pu admirer en peinture avant d'exiger de les voir en vrai, ont fait tourner la tête. Puis ses fesses, lui aussi, les a montrées John Lennon en une du magazine Rolling Stone.
Et deux stars de la télé nues et culottées qui se lancent, nues au début, à la découverte des villages français Nantes et Mouts.
Historiquement vôtre, votre émission de récits historiques.
A tout à l'heure dès 16h sur Europe 1.
Europe Matin.
6h27, excellente matinée ce 5 juillet 2022 sur Europe 1.
On parle un petit peu
de passé.
De passé avec Dimitri Pavlenko.
On parlait de réincarnation, hein, voilà. Pour vous dire. À quelle époque auriez-vous souhaité être réincarné? Julien nous disait, lui, il était dans le passé. Alors, grand débat, à quelle est l'époque?
Moi, les années 60, ça me va très bien.
Les années 60, ouais. La fin du 19e siècle en France, c'était pas mal.
La belle époque.
Hein.
Ouais.
La belle époque, ouais. Hein, tout ça.
Moi, je faisais le disco aussi, hein, pardon. Hein,
mais... sur le dance floor dans les années 70. Je vous y vois bien, Ombline.
Plutôt que le Moyen-Âge.
Oh, on a 30 secondes. Bon anniversaire, Marlène.
Bon anniversaire, merci, c'est gentil.
Il y a plein d'anniversaires aujourd'hui en ce 5 juillet.
Laurence Ferrari.
Laurence Ferrari, exactement.
Philippe Vandel,
qui fête ses 60 ans. Philippe, cette année, il est en vacances, il se repose. Il les fait vraiment pas. Hein. Ça, je peux... Mais c'est comme vous, Marlène, vous les faites absolument pas, hein, vos 26 ans. Oh. On dirait que vous en avez 20.
Voilà, c'est ça. Non, on ne va pas regarder les petites ridules sur le coin des yeux.
Quel flagorneur je fais. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Europe Matin. Alors, un grand Bercy à 5 ministres, un grand pôle écologiste à 6 ministres et un grand Beauvau aussi pour Gérald Darmanin, qui récupère les Outre-mer, les sorties, les entrées, les confirmations de ce nouveau gouvernement d'action, hein, comme on dit maintenant. Annoncé tout de même par simple communiqué de presse hier matin. C'est bizarre un petit peu. D'habitude, vous avez le secrétaire général de l'Élysée qui se présente sur le perron du palais, égrenant ainsi les noms des ministres. Ben non, là, les noms avaient fuité toute la matinée. Donc, un simple communiqué de presse aura suffi. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface, hein, dit le poète. Eh bien, qu'est-ce que ça nous dit de ce nouveau gouvernement? On va beaucoup en parler ce matin, commenter cette nouvelle formation politique à la tête de l'exécutif. Manuel Bompard, le député La France Insoumise des Bouches-du-Rhône, sera à 8h13 l'invité de Sonia Mabrouk. On en parlera avec lui. Les Insoumis promettent d'ailleurs le dépôt d'une motion de censure dès demain pour tenter de faire tomber le gouvernement, alors qu'Elisabeth Borne a annoncé qu'à l'issue de son discours de politique générale, elle ne se soumettrait pas à un vote de confiance. Qu'est-ce que ça nous dit de la situation politique? On va voir ça ce matin. À ne pas manquer aussi ce matin le journal du Tour à 7h20, 8h30. Et puis à 8h, dans le journal de 8h, un reportage en Tunisie. Où on verra que les restaurateurs français embauchent à tour de bras des serveurs là-bas, faute de trouver des recrues en France. Qu'est-ce que ça nous dit du travail dans le pays? Ça aussi, ça fera partie des questions ce matin jusqu'à 9h. Voilà pour le programme. Bonne journée.
Merci,
Julien.
À demain.